Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Sénégal, déclaration quasi simultanée du président Macky Sall et du député de l'opposition Ousmane Sonko, libéré et mis sous contrôle judiciaire après les violences consécutives à l'arrestation de M. Sonko. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagueï, y reviendra plus en détail. En Côte d'Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara s'acheminait lundi vers une victoire aux élections législatives de samedi qui se sont déroulées sans violence, contrairement à la présidentielle d'octobre 2020. La commission électorale indépendante n'avait pas encore publié lundi soir les résultats complets des 205 circonscriptions, mais le parti au pouvoir semblait assuré d'obtenir au moins 128 des 255 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. À Lomé au Togo, tenue hier de la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali, notre correspondante sur place, Kay Lawson, nous fera un bilan de cette réunion. Le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est vu décerner lundi le prix Mo Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Nous aurons sa réaction ainsi que celle d'une figure de la société civile au Niger. En Guinée équatoriale, les quatre explosions accidentelles de stocks de munitions et d'explosifs qui ont ravagé dimanche un camp militaire et des quartiers alentours à Bata ont fait au moins 98 morts et 615 blessés selon un nouveau bilan provisoire annoncé lundi par le vice-président Théodorin Obiang. Les États-Unis ont rétabli lundi des sanctions contre le milliardaire israélien Dan Gertler, accusé de corruption dans le secteur minier en République démocratique du Congo, qui avait été allégé juste avant le départ du président Donald Trump de la Maison-Blanche. La mesure prise par l'administration Trump était en contradiction avec les intérêts américains de politique étrangère en matière de lutte anticorruption dans le monde entier, dont les efforts visant à combattre la corruption et promouvoir la stabilité en RDC, a expliqué dans un communiqué le porte-parole du département d'État, Ned Price. La vaccination contre la pandémie de COVID-19 est en voie d'être intensifiée en Afrique, selon l'ONU, qui a annoncé lundi des livraisons dans 9 pays du continent: Mozambique, Togo, Éthiopie, Malawi, Libéria, Djibouti, Sao Tomé et Principe, Ouganda et Mali. Les personnes vaccinées contre le COVID-19 peuvent se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation sociale, ont annoncé les autorités sanitaires américaines lundi. Et pour la première fois depuis près de 3 mois et demi, les États-Unis ont recensé moins de 1000 morts du COVID en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins. Faux départ et confusion à Minneapolis, le procès du policier blanc accusé du meurtre de l'Africain-américain George Floyd a été retardé lundi en raison d'incertitudes sur les charges pesant sur l'accusé. La procureure de l'État de New York a nommé lundi 2 juristes indépendants pour enquêter sur les accusations de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié émises par 5 femmes contre le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, tandis que des élus républicains minoritaires à la Chambre basse amorçaient une procédure de destitution contre lui. Le président Joe Biden a annoncé lundi, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la nomination des générales Jacqueline Van Hovost et Laura Richardson à la tête du commandement militaire américain. Alors, elles devraient devenir les deuxième et troisième femmes à occuper d'aussi hautes fonctions militaires aux États-Unis. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva peut désormais affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022 après qu'un juge de la Cour suprême a annulé toutes ses condamnations pour corruption et l'a rétabli dans ses droits politiques. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. la suite de nos informations. Un vent d'apaisement souffle sur le climat sociopolitique sénégalais depuis hier et les déclarations quasi simultanées du président Macky Sall et du député de l'opposition Ousmane Sonko, libérés et mis sous contrôle judiciaire. Les deux ont appelé au calme tout en restant sur leurs principes, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Le député Ousmane Sonko a tenu à s'adresser aux Sénégalais pour leur faire part de sa reconnaissance, mais aussi imposer au président Macky Sall plusieurs points, parmi lesquels le versement d'une réparation pécuniaire aux familles des victimes, l'indemnisation des blessés civils comme militaires, l'ouverture d'une enquête indépendante, la démission du ministre de l'Intérieur, la libération sans condition des prisonniers politiques, l'arrêt à jamais de la persécution et de l'espionnage des opposants et des honnêtes citoyens, l'identification des Nirvi, qualifiés de ministres de Macky Sall. L'opposant Ousmane Sonko a également exigé des mesures qu'il juge essentielles pour la démocratie sénégalaise.
Nous exigeons qu'il soit créé les conditions de transparence, de sécurité et d'équité pour l'organisation d'élections dans les délais et avec une autorité consensuelle. Nous exigeons également la restitution des droits civiques illégalement, inconstitutionnellement confisqués par Macky Sall. Nous lui exigeons de déclarer publiquement qu'en 2024, il quittera.
En attendant l'échéance de 2024, le président Macky Sall s'est aussi adressé à la nation et le maître mot de son discours a été l'apaisement et l'union.
Mes pensées vont d'abord aux victimes de ces malheureux événements et à toutes les personnes physiques et morales impactées par les manifestations. Je salue la mémoire des défunts et présente mes condoléances à leurs familles. L'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés.
Pour soulager les souffrances des couches vulnérables de la population qui vivent essentiellement des revenus du secteur informel, le président Macky Sall a décidé d'alléger le couvre-feu qui passe de 20h à 0h jusqu'à 5h du matin. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui quitte le pouvoir le mois prochain, s'est vu décerner lundi le prix Mo Ibrahim 2020 sur la bonne gouvernance en Afrique. Selon un communiqué de la Fondation Mo Ibrahim, le comité du prix souligne le leadership exceptionnel du président Issoufou. Il devient ainsi le 6e lauréat de ce prix. La réaction de Mahamadou Issoufou.
Je suis fier d'avoir été récompensé et je suis honoré. Et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré par ce prix. Ce prix qui reconnaît et qui récompense 10 ans de transformation, d'œuvre de transformation du Niger dans tous les domaines. Sur le plan politique, nous avons pu progresser dans la mise en place des institutions démocratiques stables. Et la preuve, c'est que très prochainement, nous allons réaliser la première alternance démocratique de l'histoire du Niger depuis 60 ans. Il n'y a pas que sur le plan politique que le Niger s'est transformé, il s'est transformé sur le plan socio-économique. Par exemple, sur le plan économique, nous avons réalisé, comme vous le savez, un taux de croissance moyen de 6% sur ces 10 dernières années. C'est dans les infrastructures que ce taux de croissance a été porté. Dans l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Dans le développement du capital humain, dans la création d'emplois pour la jeunesse. Le Niger est transformé de fond en comble et c'est, je crois, cette transformation qui est reconnue par le prix Ibrahim.
Ce 8 mars s'est tenu à Lomé au Togo la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Le point à l'issue de cette journée de travail avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Le Mali compte tenir le chronogramme de la transition. C'est l'engagement réitéré par la délégation de Bamako à Lomé. Ainsi, la présidentielle est maintenue pour se tenir dans un an, c'est-à-dire en mars 2022. Pour l'instant, la question de qui sera candidat n'est pas encore à l'ordre du jour, a indiqué à la fin de la réunion Zeini Moulaye, le ministre malien des Affaires étrangères. 3 priorités ont été mises sur la table de discussion, a-t-il souligné. Il était question d'abord de créer des conditions de paix, de sécurité, de stabilité, ensuite de l'organisation de la prochaine présidentielle et enfin les réformes. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, qui a présidé cette deuxième réunion, a encouragé les responsables de la transition malienne à se concentrer davantage sur les défis institutionnels et sociopolitiques toujours en latence dans le pays. La troisième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali est prévue pour le mois de juin prochain à Bamako. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Burkina Faso a approuvé deux contrats de la société de transport en commun Sotraco en vue de mobiliser près de 52 milliards de francs CFA pour la deuxième phase du projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga. Le premier a été conclu avec l'entreprise suédoise Scania. Il porte sur 49,35 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 24 mois. Le second a été conclu avec le français RATEP pour 2,57 milliards de francs CFA et une durée d'exécution de 36 mois. Les fonds serviront à aménager les infrastructures routières et le mobilier urbain, ainsi qu'à construire une station multimodale d'échange à la place Nabakoum avec un déploiement de 330 bus. Au Togo, la plateforme industrielle d'Adeticopé a conclu un contrat avec la société agroalimentaire AgroResources. Togo Agro interviendra dans la transformation du soja, particulièrement sous forme d'huile comestible, destinée en priorité à l'export, positionnant ainsi le pays comme exportateur d'huile de soja dans la sous-région. L'entreprise construira dans les prochains jours une usine d'extraction et d'une unité de raffinage de soja. Pour terminer, en 2020-2021, l'industrie mondiale de l'huile d'olive devrait connaître un ralentissement après plusieurs années de croissance, selon le Conseil oléicole international.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La CAF a annulé hier la CAN des moins de 20 ans alors que la compétition devait débuter samedi au Maroc. Les autorités marocaines ont en effet fermé leur espace aérien jusqu'au 21 mars inclus pour cause de Covid-19 avec une vingtaine de pays. Parmi les nations concernées font partie des pays qualifiés comme l'Algérie. Le comité d'urgence a pris connaissance des contraintes auxquelles sont confrontées certaines associations membres. Participantes ainsi que le pays hôte explique le communiqué de la CAF. Le comité d'urgence a aussi réhabilité le stade du 4 août de Ouagadougou que la CAF avait suspendu. L'équipe nationale burkinabé et son club qualifié pour la Coupe CAF Salitas FC pourront donc recevoir leurs adversaires à Ouagadougou. Le tribunal arbitral du sport a réduit de 5 à 2 ans la suspension prononcée par la FIFA en novembre dernier contre l'ex-patron du football africain Ahmad Ahmad. La juridiction sportive a reconnu le dirigeant malgache coupable, entre autres, de distribution de cadeaux et de détournement de fonds, confirmant donc son inéligibilité alors qu'il briguait un deuxième mandat. Ahmad Ahmad était accusé d'avoir utilisé l'argent de la CAF pour inviter certains présidents de fédération nationale à un pèlerinage à la Mecque, sans rapport direct avec le football, explique le TASS. Mais la formation arbitrale l'a mis hors de cause dans une affaire distincte qui lui avait valu une garde à vue à Marseille en 2019, portant sur la rupture d'un contrat d'équipement avec Puma au profit de Tactical Hostile pour un montant supérieur. Les juges estiment impossible de conclure que M. Ahmad ait tiré un quelconque avantage personnel de cet épisode. L'élection à la présidence de la CAF aura lieu le 12 mars à Rabat, sans le malgache. Le défenseur latéral algérien de Naples, Fawzi Goulam, sorti blessé dimanche lors du match contre Bologne, souffre d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, a annoncé son club. L'ex-défenseur de Saint-Étienne, 30 ans, est sorti dès la 22e minute dimanche, un match comptant pour la 26e journée de Serie A. Le club ne précise pas la durée prévisionnelle de l'indisponibilité. Goulam a déjà connu deux blessures graves à l'autre genou. Le droit, une rupture d'un ligament croisé en novembre 2017, puis une fracture au niveau de la rotule au printemps suivant. Pendant cette longue indisponibilité, l'international algérien, arrivé à Naples en janvier 2014, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022.
Dans votre compagnie Idrissa Sejudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, ouverture le week-end dernier de la campagne en vue de l'élection présidentielle. Les 7 candidats en lice ont commencé à battre campagne. Le cas du président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui s'est rendu à Pointe-Noire. L'opposant, Guy Brice Parfait Kolela, lui, n'a pu aller à Ouesso, dans le Nord, faute d'avion. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
Les 7 candidats ont 2 semaines pour convaincre et rallier le plus de monde autour de leur candidature. Dev Mafoula, 39 ans, a commencé par visiter les victimes des explosions de Mpila du 4 mars 2012. Un dossier toujours d'actualité.
C'est en tant que citoyen que je viens vers les personnes qui nous ont quittés pour s'incliner devant eux. Parce que vous le savez très bien, le président Marien Wabi a donné pour son pays. Le cardinal Émile Biayenda a donné pour son pays. Et les victimes du 4 mars sont parties à cause d'une situation que tout le monde sait aujourd'hui. Donc pour moi, il était nécessaire que cette journée soit marquée.
Guy Brice Parfait Kolela, 62 ans, n'a pu se rendre samedi à Ouesso dans le Nord où il avait prévu lancer sa campagne électorale. La compagnie aérienne TAC a annulé à la dernière minute son escale à Ouesso pour ce vol qui allait à Infondo. Serein, Guy Brice Parfait Kolela appelle au vote de la rupture.
Je suis le candidat de la rupture. C'est pour cela que je demande au peuple congolais de se lever pour aller voter, voter massivement pour le changement. Parce que si vous ne le faites pas, vous continuerez à croupir dans la misère telle que nous est servie depuis longtemps par le PCT. Il est temps de choisir la rupture.
Le président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans, était à Pointe-Noire. En exhortant la population à adhérer à son programme de continuité, il estime qu'il n'y a presque pas de doute à sa réélection le 21 mars prochain. Plusieurs journalistes ont été formés à la couverture de ce scrutin grâce aux Nations Unies et à l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. Le Conseil supérieur de la liberté de communication demande aux médias de respecter l'équité dans le traitement de l'information électorale. Arsène Séverin, Pointe-Noire, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui quitte le pouvoir le mois prochain, s'est vu donc décerner lundi le prix Mo Ibrahim 2020 sur la bonne gouvernance en Afrique. Selon un communiqué de la Fondation Mo Ibrahim, le comité du prix souligne le leadership exceptionnel du président Issoufou. Mais certains acteurs de la société civile nigérienne ne sont pas convaincus. Pour une réaction, Abdulrahman Dia a joint à Niamey Ali Idrissa, coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire.
Ma réaction, c'est d'abord une réaction de surprise et d'étonnement. Pendant que nous sommes dans un processus qui n'est même pas encore terminé, on dit qu'on a accordé le prix à Mo Ibrahim à Issoufou. Vous savez bien que ce prix viole carrément ses propres principes. Parce que c'est normalement 3 ans après avoir quitté le pouvoir qu'on descende ce prix. Et deuxièmement, pour nous, c'est vraiment une insulte, un mépris royal vis-à-vis du peuple nigérien qui a subi les 10 ans de gouvernance chaotique du régime Issoufou. On ne peut pas aujourd'hui nier que, dire qu'on ne connaît pas que Issoufou a été le président nigérien qui a plus arrêté d'acteurs de la société qui n'ont voulu que exprimer un droit constitutionnel et d'opposant.
Vous-même, vous avez eu maille à partir avec la justice durant la présidence Issoufou.
Oui, et encore tous mes autres collègues qui ont passé des mois et des mois dans les geôles, pour certains 19 mois en prison, pour seulement avoir voulu exercer un droit constitutionnel. Tandis que c'est ce monsieur qui est consacré aujourd'hui, et aujourd'hui, mais puis aussi vis-à-vis du peuple nigérien qui reste encore dans le sous-développement. Ça fait 10 ans de gouvernance Issoufou, ça fait 10 ans que nous sommes derniers en matière d'indice de développement humain.
Le fait que Issoufou quitte le pouvoir sans briguer un troisième mandat, alors que dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, le débat sur le troisième mandat fait rage, est-ce que ce n'est pas cela qui a été un facteur contributeur?
Vous savez, Issoufou n'est pas un suicidaire. Issoufou, c'est ce qui s'est passé pour des anciens présidents qui n'ont pas voulu respecter la constitution nigérienne. Il l'a donc pour nous, c'est clair qu'il est assez intelligent pour comprendre que la ligne n'est pas franchie et ne l'a pas franchie. Et aussi, c'est un respectant de la constitution nigérienne qui. Donc, pour nous, c'est vraiment pas un événement.
Et qu'est-ce que vous comptez faire en tant que société civile, puisque son dauphin, en fait, Mohamed Bazoum, a remporté les élections sur la base des résultats provisoires, en tout cas. La lutte contre la bonne gouvernance se poursuit sous la présidence Bazoum, pour vous?
Vous savez, aujourd'hui, là où Issoufou laisse ce pays, c'est d'abord une démocratie à reconstruire. Et réconcilier les Nigériens entre eux est aussi un autre défi, le défi du sous-développement. L'école nigérienne est complètement à terre.
Ali Idrissa, coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
L'écrivain et historien guinéen Djibril Tamsirnian, intellectuel de grande réputation et contributeur à l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, est décédé hier à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 89 ans. Djibril Tamsirnian était un spécialiste de l'histoire et de la culture mandingue en Afrique de l'Ouest, Guinée, Mali ou encore Sénégal. Il était l'auteur de Sundiata, ou l'épopée mandingue. Eric Manira Kinza a joint à New York le professeur d'histoire et de littérature à Manhattanville College, Mohamed Mbotch.
Oh, il était d'une précision déroutante dans la démarche historique, et donc c'était quelqu'un qui ne se satisfaisait pas d'approximation. Ensuite, il avait une vision propédeutique même de l'enseignement de cette période qui est souvent un tout petit peu ignorée ou minorée dans l'enseignement de l'histoire de l'Afrique et dans la publication des ouvrages. Et en particulier, il attirait souvent l'attention sur le fait que les sociétés africaines qui se sont développées donc, à cette époque qu'on appelle le Moyen-Âge, jeter les fondements des sociétés africaines actuelles, que ce soit les identités, la conversion à l'islam, l'élaboration d'une culture intellectuelle dans des universités locales, la publication en Adjami, qui est une écriture des langues africaines avec l'alphabet arabe, et finalement l'utilisation très rationnelle et très scientifique de la tradition orale, des renseignements recueillis auprès des griots et de tous ceux qui sont détenteurs d'une histoire orale, et de les insérer, de les mettre à pied égal, en fait avec les sources écrites et les sources archéologiques, pour publier, pour propager une histoire de l'Afrique la plus exacte possible, donc à côté de l'histoire des autres continents.
Il a beaucoup écrit, il a beaucoup publié, il a même fait du cinéma. Y a-t-il un œuvre particulier qui vous a, vous individuellement, marqué?
Les deux œuvres qui m'ont le plus marqué, disons même trois, c'est finalement son ouvrage sur l'épopée du Mali, donc Sundiata Keita, voilà, que j'ai utilisé à plusieurs reprises.
L'épopée mandingue.
Voilà, l'épopée mandingue, et il y avait toujours des choses à approfondir, à trouver, des pistes de recherche, des pistes de réflexion, d'histoire comparative. Le volume qu'il a édité et qui est resté donc un succès de librairie, disons, pour l'Afrique, je crois entre le 11e siècle et le 16e siècle, si je ne m'abuse, je crois que c'est le titre de cet ouvrage, et qui est fondamentalement l'ouvrage qu'on peut et qu'on doit utiliser, que ce soit dans les universités ou même dans les lycées et collèges, pour apprendre donc l'histoire de l'Afrique sur cette période. Et finalement, le volume qu'il a édité à l'UNESCO avec l'histoire générale de l'Afrique. Ce sont les trois ouvrages qui m'ont le plus marqué, simplement parce qu'en tant qu'historien professionnel, on y trouve pas mal de choses qui sont très intéressantes et qui permettent aussi d'approfondir, et surtout lorsqu'on enseigne, de pouvoir indiquer aux étudiants des textes fiables pour l'apprentissage du métier d'historien.
Vous l'avez côtoyé, quel souvenir gardez-vous de lui?
Un homme affable qui ne se prenait jamais plus que pour ce qu'il était, un chercheur, un homme de son temps, qui avait bien entendu passé des péripéties plus ou moins difficiles, en particulier écartelé entre ce qui se passait en Guinée et un tout petit peu l'exil de beaucoup d'intellectuels guinéen de son âge et de son temps. Il n'a jamais voulu être très loin. Donc Dakar était resté sa base, sa seconde patrie, par sa capacité de soutenir la discussion sur des pistes nouvelles sans s'accrocher, disons, sur des poncifs ou sur des vérités que lui-même avait pu écrire avant et qui est toujours resté jeune, justement dans cette ouverture, dans cet esprit d'apprendre et d'aider les jeunes à progresser dans l'apprentissage et dans la maîtrise de l'histoire africaine.
Mohamed Modj, professeur d'histoire et de littérature à Manhattanville College à New York. Aux États-Unis, cela fait un an que les premières mesures de confinement sont entrées en vigueur en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, le retour à la normale se fait lentement. Reportage de Michel Quinn de la VOA, repris ici par Michel Joseph.
Plusieurs villes des États-Unis ont instauré il y a un an des mesures de confinement à cause du coronavirus. Depuis, plus d'un demi-million de personnes ont perdu la vie et près de 29 millions de cas de COVID-19 ont été enregistrés dans le pays, selon l'université Johns Hopkins qui suit l'épidémie mondiale. Un an après, la situation n'est plus la même, mais le retour à la normale se fait toujours attendre. Le programme ambitieux d'aide économique de près de 2 000 milliards de dollars du président Joe Biden a été adopté au Sénat avec quelques fissures au sein des démocrates, mais sans aucun soutien républicain. Ce projet de loi retourne maintenant à la Chambre des représentants. La cavalerie des vaccins est déjà en marche. Les doses de Pfizer-BioNTech et Moderna ont commencé à être inoculées et un troisième vaccin, celui de Johnson & Johnson, est en cours de déploiement. L'espoir est permis. Mais on craint que des États comme le Texas ou le Mississippi aillent trop vite en besogne. Ils ont ordonné une réouverture totale, affirmant que c'est aux individus de prendre des mesures pour assurer leur sécurité et non pas au gouvernement. Du coup, les masques sont tombés et les restaurants sont ouverts dans ces deux États, ce qui n'est pas pour rassurer les responsables de la santé publique. Dr Ashish Jha, doyen de l'école de santé publique de l'université Brown.
Étant donné à quel point nous sommes proches de la ligne d'arrivée, quiconque est infecté aujourd'hui et meurt dans 3 ou 4 semaines est quelqu'un qui se serait fait vacciner dans un mois. C'est pourquoi il est urgent de garder les mesures un peu plus longtemps.
Ce sont les gouvernements des États qui fixent le moment de lever les mesures préventives. L'Ohio compte lever le port obligatoire du masque lorsqu'il enregistrera 50 cas pour 100 000 habitants. Pour le moment, il y a encore du chemin à faire car cet État en est actuellement à 179 cas pour 100 000 habitants. Mike DeWine, gouverneur républicain de l'Ohio.
Avec le vaccin, nous sommes maintenant à l'offensive. C'est une bonne chose. Mais en Ohio, nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous avons constaté que ces masques fonctionnent extrêmement bien.
Une autre pomme de discorde concerne les écoles, qui rouvrent progressivement avec environ 27% des enfants américains, toujours en mode d'apprentissage virtuel.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.